Donc bonsoir à tous. Ouais, c'est une salle très très jeune ce soir, on est ravis. Donc on est ravis, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour la reprise du cycle Le pouvoir des mots. Donc tout un cycle qu'on a monté entre autres en partenariat avec La Nouvelle Scène et sa directrice artistique Jessie Varin qu'on remercie mille fois. Donc voilà, plusieurs dates qui ont commencé en avril autour du stand-up, autour de conteurs, avec un linguiste également. Donc j'espère que vous avez tous pris le programme pour suivre les prochaines dates. Et ce soir, j'ai le plaisir immense d'accueillir Laureline Kunz et Rossana Di Vincenzo qui nous fait la grande amitié d'animer la soirée ce soir. Donc Rossana est journaliste à Télérama, elle est en charge de la rubrique Humour. Oui, en charge, allez, ça va, en charge. De la rubrique humour, elle est tout particulièrement intéressée par le stand-up, tout ce qui est one-man show. Et c'est elle ce soir qui viendra interroger Laureline. Et je la remercie beaucoup. Très bonne soirée à tous.
Bonsoir Laureline.
Bonsoir.
Hein? Et bonsoir à tous. Alors moi je suis très contente de voir une salle aussi jeune. C'est assez plaisant, surtout à la BPI, ça fait vraiment plaisir. Donc on va passer une petite heure ensemble. On va parler de plein de choses. Vous allez voir. Donc l'idée c'est évidemment de parler du pouvoir des mots, dont ce cycle de conférences organisé par la BPI. Laureline, je vais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas. Tu as 39 ans. On peut le dire maintenant. Tu es originaire d'Alsace, plus précisément de Strasbourg. Tu es auteure, comédienne, humoriste de plusieurs spectacles. Hein. Je récapitule très brièvement. Dyslexique en 2007, Miss Crise en 2010, qui a reçu, je crois, le Fonds SACD pour l'humour la même année.
Oui.
Arrête de te plaindre pendant la guerre, on ne se plaignait pas, en 2012, c'est ça. Wunderkunst en 2013, la même année, qui était une espèce d'ovni un peu théâtral. Non, c'est le cabaret Kunst qui était...
Oui, l'ovni, c'est l'autre, oui.
Voilà, d'accord. Le cabaret Kunst, donc l'année suivante, une espèce de Rocky Horror Picture Show musical, théâtral.
Avec d'autres comédiens.
Avec d'autres comédiens, voilà, qui étaient en troupe, donc. Ensuite, le questionnaire fou sur lequel on va un petit peu plus s'attarder, qui a débuté, dont les représentations ont débuté, je crois, en 2015, et que tu as joué au moins pendant 2 ans jusqu'à 2017. Donc on parlera de l'évolution évidemment du spectacle. Et ton dernier bébé, autre que tes 2 enfants, actrice française que tu vas commencer, je pense, à jouer cette année, à mon avis.
Oui, de fin 2019, début 2020, on va commencer. On a déjà fait 2 petites versions test, mais très intimes. Et ça va venir très bientôt. Ça s'appellera Actrice française.
Voilà. Donc... On peut aussi dire que tu as été championne de France de slam en équipe en 2007 à l'AMC 93 de Bobigny, Miss Météo décalée sur Canal Plus avec Maïté Nabiraben, réalisatrice d'une autofiction avec François Rollin qui s'appelle Gentil et qui sortira ou qui est sortie en 2019, je n'ai plus la date exacte.
Qui sort à la fin de l'année, là.
À la fin de l'année. Mariée, maman de 2 enfants, formatrice en atelier avec des jeunes, avec des comédiens. Bref, tu es hyper active. Multiple et très prise, j'imagine. Bref, Laureline, ce cycle s'appelle Le pouvoir des mots. Ma première question, c'est d'où est-ce qu'il te vient justement cet amour des mots? Est-ce que l'écriture, l'oralité a toujours été quelque chose de présent chez toi? Comment tu as découvert le plaisir d'écrire, le plaisir des mots? Et quelles étaient tes influences petites?
Alors, moi, j'ai toujours, toujours aimé ça, je pense. Je parle pour les plus jeunes ici. Je sais qu'il y a des lycéens ce soir. J'ai toujours, toujours lu beaucoup, 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 tout et tout. Tout ce qu'il y avait. C'est-à-dire, je lisais des magazines satiriques qu'avait mon papa. Je lisais des livres. Je lisais des bandes dessinées. Je lisais des magazines. Je lisais des couvertures de boîtes de céréales. Tout ce qui me tombait dans la main, je lisais tout le temps. Et tout avait la même valeur pour moi. Et quand j'avais 7 ans, ma mère m'a offert un recueil de poésie. Paroles de Jacques Prévert, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oui, c'est connu.
Elle y avait mis un mot, non, je crois.
Oui, elle avait mis un mot, elle avait écrit « Pour que la poésie, les mots et les jeux de mots que tu aimes tant, toujours t'accompagnent ». Donc ma mère a décidé pour moi, vous voyez. Voilà, donc les mots ont toujours été là, sous toutes les formes. J'ai vraiment, tout est lié aux mots. J'ai commencé à lire, le premier livre que j'ai lu, c'était, pas le premier livre que j'ai lu, mais un des livres que j'ai lu à 9 ans, c'était « Le silence des agneaux », voilà. Et j'avais trouvé ça formidable, et j'avais 9 ans, c'était dans la bibliothèque, je l'ai pris, je prenais les livres qu'il y avait, ça m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup, et je faisais aucune hiérarchie entre les livres bien et les livres pas bien, les livres de loisirs et les livres intellectuels, les livres... voilà. Et j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était formel, comme la poésie, les jeux de mots et tout ça, parce que j'ai l'impression qu'avec la forme, je comprenais mieux les choses qu'avec le sens. C'est-à-dire qu'en m'expliquant quelque chose de façon théorique ou rhétorique, j'ai du mal à comprendre les choses, mais si la forme est expliquée par le sens, la forme, par un poème, j'arrive mieux à saisir l'essence des choses. On pourra reparler de ça, c'est vraiment une chose importante pour moi, ça.
Est-ce que ce plaisir des mots a été lié, d'une certaine manière, rapidement à l'humour, au fait de vouloir faire rire, au fait de vouloir faire passer des idées? Je crois que dans ta famille, on regardait pas mal de Vos, des gens comme ça, des proches. T'es aussi influencé par le rap, il me semble. Du coup, voilà, le fait de dire quelque chose à travers les mots, en tout cas en un public qui n'existait pas encore, en tout cas, mais... et de faire rire, est-ce que ça a été quelque chose qui est arrivé rapidement pour toi ?
Alors il y avait une collusion entre plein de choses, mais à l'époque je sais que mon papa avait beaucoup de magazines, notamment l'Écho des savanes, qui n'est pas du tout pour les enfants. Aujourd'hui vous n'auriez pas du tout le droit de regarder ça.
Interdit au lycée.
Ça a beaucoup changé. Et donc il y a eu un mélange entre la belle littérature, Maupassant, l'Écho des savanes, on a mélangé tout ça, et puis ça a donné quelque chose d'autre. Et puis après il y a eu les années lycée, les années au collège, lycée, c'est le rap.
Donc il y avait tout, qui par exemple ?
Ben moi, j'aimais bien. Il y avait vraiment les petites choses un peu. Il y a les choses dans le rap. Moi, je dissocie différentes choses. Il y a les poètes et puis il y a les choses un peu pour le fun, pour le fait de poser les choses. Il y a la Funky Family, voilà, pour les plus anciens. Moi, j'aimais bien ça. Après, plus tard, j'ai découvert Oxmo Puccino, que j'aime toujours autant et que je suis toujours autant. Il y avait beaucoup les rappeurs américains. Moi, j'étais beaucoup dans les rappeurs américains, plutôt East Coast, pas West Coast, parce que c'était trop pour les surfeurs là-bas. Moi, je préférais les gens un peu plus cérébraux vers New York.
Continue que Snoop Dogg n'est pas cérébral.
Snoop Dogg n'est pas cérébral, non.
D'accord.
il est intelligent, mais il n'est pas cérébral. Je préférais le Wu-Tang Clan, voilà.
Ouais, ok.
Voilà.
Je pense à ça parce que ce soit pour le rap ou en tout cas pour l'humour, il y a une histoire de flow, de rythme. Et s'il y a quelque chose qui est assez présent dans ton travail, c'est l'idée de performance orale ou en tout cas de débit hyper rapide. Je crois que ta grand-mère qui s'appelait Anne-Marie, on l'appelait mamie mitraillette ou quelque chose comme ça. Elle parlait très très vite. Ça a vraiment influencé ton travail plus tard, hein, de stand-upeuse, d'humoriste.
Alors ma grand-mère, on l'appelait la mitraillette pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'effectivement, elle parlait très, très vite. Et je suis alsacienne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Alsace, mais l'Alsace, on a obligé les gens à parler que allemand, puis que français, puis que allemand, puis que français. Donc, ils ont toujours été entre deux langues. C'est une chose assez compliquée. Et j'avais l'impression que chez les Alsaciens, il y a une espèce de débit très rapide. Je ne sais pas si vous en connaissez, des Alsaciens. Et ils parlent souvent un petit peu comme ça, et puis ils parlent un peu vite comme ça, et puis ils ont l'accent, et il faut vite, parce qu'il ne faut pas trop dire les choses. Il faut, comme ça, il ne faut pas trop s'expliquer. C'est pas... Hein, vous voyez, c'est pas, on s'attarde pas sur les choses, on n'est pas dans un côté du sud où on va prendre le temps, on va vite. Et donc effectivement, je parle vite comme ça. Je pense aussi avec cet héritage alsacien, qui est pour moi une grande pudeur de parler vite. C'est François Truffaut. François Truffaut disait ça de Bobby Lapointe. Et je le cite, oui, je cite François Truffaut dès maintenant.
Et avec Télérama,
il disait,
hein,
moi j'ai pris, voilà, on est avec Télérama, je cite François Truffaut. Il disait que Bobby Lapointe, c'était vraiment un grand timide, et que comme il était très très timide, au début il parlait très 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 vite, parce qu'il n'arrivait pas à prendre le temps des respirations et des silences qu'on prend un peu plus tard quand on est plus à l'aise. Et moi, ce que j'ai pris plus tard quand j'ai commencé à apprendre à jouer avec les gens que j'ai rencontrés, notamment ma metteur en scène, Cécile Camp, qui est là. Coucou.
Coucou Cécile. T'as commencé le théâtre du coup parce que alors tu te passionnes pour les mots, tu te passionnes pour la lecture, tu te passionnes pour l'humour, pour le rap, etc. Tu découvres le théâtre à quel moment ? À quel moment tu te dis tiens, j'aimerais bien prendre des cours, me former, jouer ? Et je crois que t'as fait un stage au TNS, hein, donc au Théâtre National de Strasbourg quand j'étais au lycée, c'est ça ?
J'étais en classe théâtre.
T'étais en classe théâtre.
J'avais 10 heures de théâtre par semaine avec le Théâtre National de Strasbourg et c'était coefficient 10 au bac. C'était vachement bien à l'époque.
Et donc, suite à ça, tu te prends au jeu de comédienne, quoi.
Oui, enfin, même
c'est
avant,
à ce moment-là que ça arrive.
Alors, j'ai jamais, jamais rêvé d'être comédienne, contrairement à des comédiennes qui rêvent d'être comédiennes. Par contre, j'ai toujours, toujours fait des spectacles.
Ouais.
Donc, des créations, des choses un peu collectives, où on écrit quelque chose et on le met en scène, où on avait écrit un journal quand j'étais au primaire. Enfin, toujours des choses comme ça collectives, autour des mots, autour du spectacle, mais pas. J'ai jamais, avant de vraiment commencer à jouer, rêvé une seule fois. D'être comédienne.
Est-ce que ça te semblait impossible vu, souvent certains comédiens disent ça n'était pas pour moi. Parce qu'on habite dans un quartier un peu difficile, parce qu'on n'a pas des parents qui nous éduquent au théâtre ou des choses comme ça. Enfin, c'était...
Non, c'est juste que j'y pensais pas, à vrai dire. Je voulais être avocate ou journaliste, enfin un truc important, quoi.
Oui,
Et aussi, je me rendais pas compte de tout le travail que font les comédiens pour arriver à jouer. Je pensais que c'était quelque chose de plus facile, peut-être. Et maintenant que je sais que c'est difficile, j'admire beaucoup plus ça, peut-être, aussi.
Oui, c'est vrai que c'est pas forcément très évident. Ça a l'air simple.
Non.
Surtout les humoristes. Enfin, je sais pas si parmi vous, notamment les jeunes qui sont présents ce soir, vous avez l'occasion d'aller voir des spectacles, mais ça a l'air drôle comme ça, un mec qui fait des blagues derrière un micro, mais il y a énormément de travail et il faut le rappeler. Donc, tu fais un stage au TNS, ça, par contre, ça, c'est...
Trois ans, 10 heures par semaine.
Et ensuite, tu viens à Paris...
Ouais.
Et tu entames des études théâtrales à la Sorbonne et tu as même un DEA, je crois.
Alors, ouais.
Et tu finis par être lectrice dans une émission de télé de Guillaume Durand qui s'appelle Esprit Libre. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Oui. Bah écoute, je pense que j'étais à ce moment-là en maîtrise ou en DEA, je ne sais plus. Et puis j'ai une copine qui m'a dit, tiens, j'ai quelque chose pour toi. En gros, il faut que tu fasses la passoire. Donc il faut que tu lises tous les livres que Guillaume Durand ne va pas lire lui-même. C'est-à-dire que lui, il lit les best-sellers, ceux qui sont des auteurs connus, et puis il a besoin de gens pour l'aider à lire les, à peu près en rentrée littéraire, les 150 livres qu'il reçoit par jour, je ne sais pas combien. Donc moi, je faisais la passoire, je lisais tous les autres livres, et c'était vraiment un des meilleurs boulots que j'ai eu, parce que je passais mes semaines à lire, et j'avais créé une petite fiche de lecture que je lui faisais, et j'inventais, je lui disais, ça peut être pour tel acteur, ça pourrait être un film. Bon, ces livres-là ne sont jamais passés à la postérité, donc j'ai lu plein de livres qui ne passeront jamais à la postérité, et c'était assez passionnant.
D'accord. En tout cas, ça t'a permis de d'étoffer ta culture personnelle.
Ah oui, voilà.
C'était déjà ça.
Avec du bon et du moins bon.
Alors, en 2006, il se passe ce qu'on pourrait appeler être un déclic. Tu fais la découverte des cafés slam. Alors, je ne sais pas si les plus jeunes qui sont présents dans cette salle savent ce qu'est le slam. Une forme d'oralité, ou en tout cas, on se réunissait dans des lieux publics. C'est né aux États-Unis, hein, à Chicago, dans les années 80, si je me rappelle bien. Mark Smith.
C'est Mark Smith, un ouvrier du bâtiment, qui, dans les années 80, faisait des soirées poétiques, vous savez, des espèces de micros ouverts, des open mic, où plein de gens venaient dire des poèmes, des textes, n'importe quoi, des chansons. Et comme ça durait des heures et que c'était vraiment au bout d'un moment un petit peu fatigant, il a dit on va mettre une règle et on va l'appeler le slam. On va dire que chaque personne peut dire un texte qui fera pas plus de 3 minutes, sans musique, sans costume, sans accessoires, et qu'on votera pour lui à l'applaudimètre, pour le meilleur poète à l'applaudimètre. Et il a créé le slam, et le slam, le mot slam, ça veut dire deux choses, c'est la contraction du mot schlem, comme un schlem de tennis, et le mot slam, c'est aussi la claque, dans les bandes dessinées américaines, on met slam, 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 nous on met clap, 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 et donc à l'applaudimètre, ou en jetant des fleurs, ou avec des notes, on choisit le meilleur poète. Et comme ça, les soirées étaient beaucoup plus dynamiques et animées avec ce concours. Et c'est une vraie joute orale.
C'était pour rendre, je crois, la littérature et la poésie beaucoup plus ludique à l'époque, il me semble.
En c'est
tout cas,
ça.
Dans les années 80, c'était pour justement que ça soit pas ennuyeux et que les gens qui avaient envie de déclamer des textes pouvaient se réunir comme ça dans des lieux publics, c'est dans des cafés, dans des restos, dans des bibliothèques ou n'importe quoi. Enfin bref, tu découvres ces cafés slam. Donc c'était à Belleville, j'imagine. Enfin
à Belleville.
Pilote-le-hôte.
À culture rapide, pilote-le-hôte.
Évidemment.
Voilà.
C'est un ami qui t'y traîne. Et là, énorme claque.
Ouais.
T'as envie de monter sur scène et de réciter un de tes textes?
Ah oui, j'ai vraiment... Alors tu vois la collusion entre pas vraiment vouloir être actrice, mais vouloir être avocate, pouvoir dire ce qu'on veut, défendre ses textes, être dans le côté performance, qui est on dit une chose, on écrit un texte, on le dit tout de suite. Il y a plein de monde, la salle est chauffée, il y a une ambiance. Ah ça, vraiment, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Et du coup, cet ami, Mathieu Rhin des Côtes du Nord, un slammer, m'a dit, viens voir, ça va te plaire. Tu vois, il m'a dit, viens, je suis sûre que ça va te plaire. Toi qui écris des trucs, j'étais dans ma fac de théâtre, j'écrivais un petit peu. Mais j'avais pas trouvé une vraie forme théâtrale. Et je suis allée dans ces soirées slam et j'avais écrit, je crois, un premier texte. C'est pas Dixlexique, le tout premier.
Ouais.
C'est celui que j'avais dit à la première scène slam. Ça s'appelle « Je savais pas que t'aimais ça ». Et c'est l'histoire d'une dominatrice sexuelle. Voilà.
On reviendra sur les métaphores sexuelles dans ton travail qui sont métaphores filées.
Et donc j'étais dans c'était pas la première fois, c'était pas Culture Rapide, c'était au Café Chéri, je sais pas si il y en a qui connaissent, à Belleville. Et j'ai dit ce texte-là, et là j'ai fait ah oui, c'est vraiment bien quoi. Et après j'ai plus arrêté d'écrire.
Le milieu du slam en 2005, c'est post Grand Corps Malade, tous ces gens-là. Donc il commence à y avoir une ébullition, en tout cas autour de cette discipline-là. Et contre toute attente, tu participes, puisqu'il y a des championnats qui sont organisés tous les ans de slam, des championnats du monde. Et il y a notamment un championnat de France. Tu participes en équipe en 2007 et à ta grande surprise, tu gagnes. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on montre la vidéo peut-être maintenant
oui,
et qu'on en parle
ensuite,
un petit peu
ça vous
après.
Dit juste, on va voir. Ouais. Oui, alors, je fais juste on va voir une vidéo qui a été tournée au téléphone portable en 2007, donc il y a longtemps. Oui, ça va. Hein.
C'est...
hein. Pour certains, c'était pas si loin. Et donc, du coup, le son est un peu mauvais. Mais je tenais vraiment à montrer cette image-là, parce que vous allez voir, c'est dans son jus, comme je dis, c'est vraiment un tournoi de slam. On va au micro, et vous allez voir derrière, si vous regardez, c'est un peu flou, mais on voit, il y a le tableau des notes de chaque round précédent. Donc, il y a différents rounds, comme qu'à la boxe, il y a différentes étapes. Et là, on arrive vers une étape finale, et je fais ce texte-là.
Donc, la vidéo est pas de bonne qualité, mais soyez indulgents. En tout cas, le texte est très bien.
Et si vous voulez, si vous n'avez pas tout compris, je vous en dirai quelques extraits, moi. Ça s'appelle Dyslexique.
Dyslexique. Je suis dyslexique. Dès que je suis née, fiablème, caustix, toxix. Dans la nuit du Père Noël, mes cadeaux, c'était un mélangement des mots, plus un défaut de prononciation. Et mon petit pull en moulère mauve qui me fuit partout. Je savais que jamais j'atteindrais le carré SAV dans les boîtes VIP. Je serais toujours une hurle avec la berlou. Mes parents, ils me saupoudraient sans fesses. Travaille ton cabulaire, fais des effets forts, sinon personne n'y voudra te fiançailler. Et tout le monde y va te rigolailler au pied. À force de me sentir ridicule, j'ai agrégé que j'étais différente, pas fermentée. Mais je voulais pas rendre la peau de l'ours avant de l'avoir ruée. Un tien vaut mieux que deux tralala et un falafel. J'ai persigné, j'ai gardé les poivres. Pour aérer l'atmosphère, j'ai fait rire mes alcooliques dans ma classe d'ado glissant au lycée. Crétinité débilatoire. Mon petit fut en l'air mauve, il s'est tout débraillé, défriloché quand ses incultes tiraient de moi et mes inventivations. Mais c'était ça au bon. Un gars, un jour, m'a effrôlé mes pommettes assaillantes. Et ma bouche et l'âme. J'étais tout émotivée, j'ai parlé comme ça, d'un bout d'un seul. J'étais encore hors du texte. Il a délaté comme un sapin. Alors j'en ai eu marre de tout, même de mon orphotoniste, et je m'en suis départie. J'ai pris mes tics et mes torts, j'ai pris le courage dans ma main, une lame effilochée dans l'autre, et je me suis suicidée. J'ai défloré les étoiles étincelantes, je suis été au paradis des tics et sics. J'ai mis mon petit pull en l'air mort pour absorber le sang qui roulait. Je suis restée fidèle à moi-même, témérite. J'ai annulé de respirer en apnée. Mon petit pull en l'air mort et moi, on s'est fait la dalle, loin de ce monde crupide, on s'est évadoré. Dyslexique, je suis dyslexique, puis je suis une effiablème, caustique, toxique. Dans la vie du parrain, mes cadeaux, c'est un mélangement des mots, plus un défaut de prononciation. Et mon petit pull en moulin mauve qui me fuit partout. Je savais que j'avais jamais le carré salé dans les boîtes vieilles, je serais toujours une avec la berlou, mais pareil, je voudrais sans cesse. Travaille ton vocabulaire, fais des effets parce que personne ne devrait te renseigner, trop d'un gueule au pied. Avant de me sentir ridicule, j'ai agrégé que j'étais différente, pas d'armenter. Mais je voulais pas rendre la peau de l'ours avant de l'avoir roulé. Un tiens, vaut mieux que deux trains à l'arrière, pas d'arcane. J'ai persigné, j'ai gardé les poires. Pour aller à la cantine, j'ai péri aux alcooliques dans ma classe d'adolescent, lycée, créativité, dégradatoire. Mon petit pull en moulin mauve, c'est tout débraillé, défriloché quand c'est un cul tiré loin des inventivations. Mais c'était ça mon con. Un gars un jour m'a effrôlé mes bouts et ma séance et ma bouche et l'âme, j'étais tout émotivé. J'ai parlé comme ça, d'un bout d'un seul, j'étais encore en du texte. Il a délaté comme un sapin, alors j'en ai marre de tout, même dans l'ordre du lycée, j'en suis parti. J'ai pris mes tics et mes torts, j'ai pris le courage dans ma main, il a mis défriloché dans l'autre et je me suis suicidé. J'ai défloré les étoiles étincelantes, j'étais au paradis des dyslexiques. J'ai mis mon petit pull en moulin mauve pour absorber le sang qui roulait, je suis resté fidèle à moi-même, qui mérite, j'avais respiré en apnée. Mon petit pull en moulin mauve et moi, c'était la dalle, dans ce monde crupide, on s'était adoré.
Moi, je trouve que c'est assez émouvant de voir cet extrait parce que bon, bah, c'était il y a quand même presque 15 ans.
Surtout la coiffure.
on reparlera des problèmes de cheveux plus tard autour d'un verre. Non, c'est assez émouvant parce que on voit déjà tous les prémices en fait de ton travail dans ce texte-là. On voit le débit performance, on voit les images, les métaphores, les références, etc. Donc bon, alors déjà quel souvenir tu gardes de cette soirée-là ? Comment tu avais écrit ce texte ? Enfin, qu'est-ce que tu avais envie de raconter avec ce texte ? Et voilà, cette victoire dans un milieu qui je pense qu'il faut le rappeler, le slam c'est un peu un enfant du hip-hop, enfin voilà, c'est la même source, c'est très masculin, donc une petite nana de, t'avais quel âge à l'époque? Ouais, voilà, une femme de 25-26 ans qui met une énorme claque à tous ces hommes pendant cette compétition. Enfin, moi, je trouve que déjà rien que ça, il faut le saluer. Donc voilà, qu'est-ce que tu gardes de tout ça? Qu'est-ce que tu voulais dire?
Alors déjà, est-ce que vous avez pu comprendre un petit peu les mots ou pas? Je vous en dis une phrase ou vous voulez une petite phrase? Hein, au début, elle dit, la jeune là, dyslexique, je suis dyslexique, depuis que je suis née. Fiablème, caustix, toxix. Dans la hutte du Père Noël, mes cadeaux, c'était un mélangement des mots plus un défaut de porno-siation. Et mon petit pull en molaire mauve qui me fuit partout. Et après, ça continue, on ne va pas le refaire. Et voilà. Et ce texte, je l'avais écrit parce que j'étais en colocation avec ma meilleure amie à l'époque. On habitait toutes les deux depuis qu'on avait 18 ans. Et on avait inventé un langage toutes les deux. On parlait en dyslexie, on avait inventé ça. Et elle faisait tout le temps des fautes. C'était vraiment très drôle. Au lieu de dire j'ai les pommettes saillantes, elle disait j'ai les pommettes assaillantes ou tu m'as effrôlé au lieu de effleuré. Donc elle inventait constamment des mots. Et je lui ai dédié ce texte qui est comme, voilà, comme si c'était elle qui parlait, quoi. Et donc, pour en revenir au championnat, ça allait vraiment très vite pour moi. J'ai découvert le slam.
Oui, c'était 6 mois après.
Voilà. J'ai enchaîné les soirées slam. J'ai inventé des textes que j'écrivais qui étaient très courts, très performatifs, sur un sujet très fort, très marqué. Et j'en disais. Il y a eu ce tournoi. Et au moment où il y a ce texte-là, on est dans le tournoi. On vient de passer, je ne sais pas, une dizaine de différentes étapes, différents rounds, j'arrive pas bien à le dire. Comme à la boxe, quoi. On passe une étape et on est dans l'équipe, on est 4. Et on passe l'étape, chacun dit quelques textes, on fait passer l'un puis l'autre. On n'a pas le droit de dire deux fois le même texte dans toutes les étapes. Et comme ça se suit. Et au moment où on arrive à ce moment-là, on est à égalité avec l'autre équipe qui sont 4 rappeurs garçons. Et on est à égalité totale. Mais dans les étapes précédentes, on a eu des meilleures notes du public. Donc, logiquement, on doit gagner. Donc, on s'apprête à fêter la victoire, on lève les bras, on crie. Et ils arrivent avec un papier, ils ont un coach. Ils ont un coach, donc les 4 rappeurs ont un coach. Leur coach arrive avec le papier et il dit non, il y a un règlement dans la loi du slam qui stipule que si au dernier round vous êtes à égalité, ça doit jouer au tie-break. Vous savez ce que c'est le tie-break ?
Comme en tennis.
Comme au tennis, un point, c'est la mort subite, quoi. Un contre un et le celui qui gagne, il a gagné. Ok, on tire au sort, les 4 rappeurs y vont. En premier, ils y vont, ils font un rap, c'est génial. Pilote le hot, donc le slam master, le maître de cérémonie de la soirée dit « Et je vois dans le public un 10, un 9,9, un 10, un 10 et un 9,9. » Ok, ça s'arrête. On se regarde avec mes amis, là, on fait « Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Vas-y. » J'ai dit « Non. » Il dit « Vas-y avec Dyslexic. » Je dis « Non. » Il dit « Allez, vas-y. » Et j'y vais. Et je fais ce texte-là. Et puis alors quand je sors, c'est comme à la boxe, quoi. Les gens me tapent sur la tête, ils crient, et pilote le hot crie, et je vois un 10, wouh! Et là, je suis portée par les gens, on me tape, j'entends plus rien, vous savez, comme ça bourdonne quand ça bourdonne dans les oreilles. Et voilà, c'est donc un grand moment pour moi, et là, ça a été une vraie révélation, un super moment. Voilà.
La révélation de la scène, quoi, surtout, enfin, parce que c'est à partir de ce texte-là que tu décides d'écrire ton premier spectacle, qui s'appelle aussi Dyslexique, qui arrive quelques temps plus tard, enfin, une année, c'est de la même année, je crois.
Oui, la même année. C'est-à-dire que je gagne en juin et un producteur me dit, en septembre, je te mets au point virgule, tu commences à jouer. Et j'avais pas vraiment de spectacle, j'avais une succession de textes, de poèmes noirs, des choses qu'on peut dire dans les soirées slam, on peut dire beaucoup de choses politiques, trash, violentes, philosophiques, drôles. Enfin, on fait ce qu'on veut et ce qu'on peut pour que l'écriture fasse performance. Vous voyez, il faut qu'en un temps très court, on séduise très vite. Donc on est sur des sujets, on est tout de suite très clair sur le sujet. On n'a pas le temps de l'introduction, on n'a pas le temps d'essayer, on n'a pas le temps de... Voilà. J'avais des collègues slameurs qui faisaient semblant de tomber en arrivant sur scène. Parce que du coup, ils avaient l'empathie du public ou d'autres qui parlent très vite comme moi, ou d'autres qui ont la belle grosse voix de grand corps malade qui remplit tout l'espace. Et je ne sais plus ce que je disais.
Mais rien, que c'était de ce texte-là, en tout cas, que est né ton premier spectacle et que tu avais une série de textes, mais que tu n'avais pas de spectacle, finalement.
Et j'ai commencé à faire un spectacle où je jouais un serial killer qui égorgeait des victimes. Et je racontais avec des lys comment je les égorgeais dans un texte très poétique. Je jouais une chinoise sans papier avec un accent chinois à couper au couteau. Je jouais des loubars sur les boulevards qui étaient des genres de clochards à la Audiard, assez trash. Et je jouais tout ça, toute jeune, toute fraîche, avec des ballerines et un petit haut comme ça. Et j'avais, voilà, une journaliste un jour m'avait dit, mais vous n'avez pas l'impression de faire un peu l'apologie de la violence, voilà. Mais comme j'étais venue du domaine poétique, où on a le droit de traiter des sujets comme ça. Et j'étais dans une salle d'humour, c'était particulier. Voilà.
Déjà, on sent donc ton écriture dans ce texte-là, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, donc les références à l'actualité ou à plein d'autres choses, la poésie, le son des mots. Comment elle a évolué ton écriture entre dyslexique et le questionnaire food dont on parlera tout à l'heure, parce que il y a quand même 8 ans qui séparent les deux spectacles, et j'imagine qu'on n'écrit pas du tout de la même manière, mais quels étaient les sujets qui t'interpellaient, de quoi tu avais envie de parler sur scène de manière générale à l'époque, enfin
à l'époque du questionnaire ou de dyslexique?
Du dyslexique,
moi dyslexique, c'était, il y avait vraiment ce moment là où j'avais cette espèce de poésie comme ça en moi, et j'avais envie de traiter beaucoup de choses très très violentes, avec du sang, des tripes, je pense que c'était ma crise d'adolescence tardive, et j'aimais beaucoup tous ces auteurs, James Ellroy, Louis Ferdinand Céline, tous les auteurs qui allaient dans la fange, dans la saleté. C'était vraiment l'endroit que je préférais. Et donc je l'ai beaucoup exploré avec la sexualité, bien sûr, qui est toujours très présente, parce que la métaphore sexuelle marche à tous les coups, et les figures un peu sombres. Et puis petit à petit, j'ai mis cette écriture au service d'autres choses, et je voyais des choses autour de moi, et je suis arrivée au questionnaire fou, petit à petit, avec des textes qui parlaient plus de choses qui nous concernent, nos idoles modernes, je sais pas, Michel Jacon, le sosie de Michael Jackson, par exemple. Des choses qui étaient plus qui nous regardaient, mais tout en utilisant les mêmes procédés d'écriture, à vrai dire. Pour regarder le monde qui était autour de moi et pas être seulement la poète, quoi. Mais ce qui est très bien d'être poète, hein, mais je fais autrement, quoi. Voilà, à ce moment-là.
Comment tu te sentais, puisqu'en 2007, c'est un an après la création du Jamel Comedy Club, dont le programme télé a commencé en 2006, le lieu a ouvert en 2008, donc c'est un peu l'explosion du stand-up. Donc le stand-up, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une personne seule sur scène qui parle en interpellant directement le public, en cassant le quatrième mur, comme on dit, et qui parle de sa vie en disant « je ». On est sur quelque chose de très direct, très frontal, avec en plus, à l'époque, on a dit beaucoup de choses sur le Jamel Comedy Club, mais en tout cas qu'il y avait une espèce de culture un peu street, voire humour communautaire, même si moi j'aime pas ce terme, parce que bon voilà, ça c'est un autre débat. Toi t'arrives avec des choses très écrites, et le questionnaire fou est encore l'aboutissement supplémentaire, enfin tu vois, final on va dire, de ce travail-là. Donc comment tu te sentais à l'époque? Est-ce que t'avais l'impression d'être en décalage ou...
J'ai toujours eu l'impression d'être en décalage, mais j'étais vraiment persuadée quand j'ai commencé que j'étais en train d'écrire un one-man show ou un stand-up. J'étais persuadée que c'était ça. C'est seulement en le confrontant au public que je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même chose, que c'était beaucoup plus littéraire, que par exemple je faisais tous les concours des festivals d'humour. Il y avait souvent d'autres humoristes que vous connaissez bien maintenant, Gaspard Proust, je sais pas, enfin voilà, et on était dans les mêmes réseaux. Mais ce que je faisais, les gens me disaient à la fin, oui mais vous c'est autre chose, quoi. C'est différent. Et j'étais toujours invitée parce que, justement, j'étais la caution différente.
Ouais, ouais.
Qui faisait qu'un festival, ça marche bien quand on a plein de choses qui se ressemblent, puis une un peu différente. C'est autre chose, quoi. Et, mais moi, j'étais vraiment persuadée que je faisais du stand-up.
En même temps, on est aussi le pays de Vos, ouais. Voilà, donc de Jean Tardieu. Enfin, donc il y a cette veine-là aussi.
Et moi, il y a aussi Zouk. Je sais pas, vraiment pour les vieux, là, maintenant. Même moi, c'est pas ma génération, mais qui est une humoriste. Allez voir, par exemple, pour les plus jeunes, allez voir quand elle fait la fourmi. C'est tout petit, c'est très rigolo. Voilà. Zouk, je trouvais qui amenait vraiment une chose presque, qui pouvait amener des choses atroces et terribles à l'endroit de l'humour. Voilà. Et que je trouvais ça drôle de rire, mais d'avoir aussi derrière autre chose, d'avoir une autre chose avec. Mmh. C'est-à-dire d'être aussi dérangée. Et elle a amené ça. Et puis après, il y a les humoristes comme les clowns, comme De Vos. Ouais. Pour moi, c'est un clown. Les textes de Vos, par exemple, si quelqu'un d'autre les joue, c'est nul.
Oui, il y a vraiment le personnage.
Mais c'est dans tous mes cours de théâtre, c'est nul, ça marche pas.
Tout à fait.
Ça marche parce que c'est lui. Ouais. Parce que l'exercice des jeux de mots, en soi, l'exercice de style, il est pas très intéressant, les jeux de mots. C'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a avec le personnage, que ça véhicule, ce qu'on a envie de dire.
Et puis c'est monter sur scène pour dire quelque chose, quoi. Mm. Enfin, tout simplement. Enfin, ouais. Moi, je pense que c'est un peu la base de l'humour, en tout cas. C'est pas faire de la vanne pour de la vanne, mais vraiment avoir un sens, avoir une idée derrière, une vision. Et malgré l'absurde et les jeux de mots, etc., on sent quand même chez toi et dans ton travail qu'il y a, il y a du fond, quoi. Il y a, enfin, tu racontes quand même des choses. Enfin, et donc, dans le questionnaire fou, au départ, tu parlais pas mal d'actualité. Alors, je reprends le questionnaire fou, donc spectacle né en 2015, c'est le spectacle que tu as le plus tourné, je crois.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Moi, j'avais lu que c'était... un tourbillon de paroles, de références, de jeux de mots, d'allusions à l'actualité française dans une série de tableaux décalés menés tambour battant. C'était peut-être sur Télérama que ça avait été écrit. En tout cas, il est né comment, ce spectacle ? Et voilà, est-ce que tu peux nous le présenter brièvement ? Parce que comment est-ce qu'on passe d'une idée d'un... Parce que c'est, moi, c'est vraiment ma question sur le cycle du pouvoir des mots. C'est toujours ce truc qui me taraude. C'est comment on passe d'un texte écrit... qui plus est très littéraire, comme on va le voir après, puisqu'on verra un extrait. Enfin non, tu vas même jouer en live d'ailleurs, à la scène, et comment on fait résonner ce texte-là sur scène pour un public.
Alors, il y a une différence peut-être, tu noteras, entre le stand-up, où ça dépend des stand-uppers, parce qu'encore, il y en a qui jouent un personnage, mais la plupart des stand-uppers s'adressent au public et vous parlent comme ça en disant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'autre jour, j'étais avec ma femme, et bon, voilà. Et d'autres utilisent un personnage, et d'autres font du théâtre. Et moi, j'étais plutôt du côté du théâtre, c'est-à-dire qu'avec ma metteur en scène, Cécile, on a décidé d'avoir une voix off, qui était une voix à qui je parlais, qui pouvait être... la voix, je sais pas, la voix de la raison, la voix de Dieu, la voix du psychanalyste, la voix de je sais pas qui, mais qui me permettait d'avoir un interlocuteur et de pouvoir jouer avec quelqu'un. Et ça, c'est le théâtre, on joue avec quelqu'un. À partir du moment où on joue un personnage, on joue avec quelqu'un, on est dans autre chose que la simple adresse directe. Donc on a construit ça comme ça, avec plein de questions absurdes qui m'ont permis d'introduire plein de textes différents qui traitaient de sujets de société. Et on a choisi avec Cécile les textes où il y avait le plus d'inversions de mots. Vous avez remarqué dans Dixtécy que j'inverse les mots. Je crée d'autres mots avec des mots. Et bien dans ce spectacle, le questionnaire fou, quasiment tous les textes étaient construits là-dessus. Étaient construits sur le jeu de mots le plus de mélange de lexique, le plus de vocabulaire, le plus de choses. Voilà. Et avec des personnages, des grandes figures. Il y avait un trader mou qui s'appelle Je suis Down Jones. C'est un trader qui n'a plus d'érection parce que la finance est en berne. Il y avait un personnage de Blondine Le Nem. Ça vous dit quelque chose ?
Blondine Le Nem. Non. C'est politique.
Blondine Le Nem, Marine Le Pen. Voilà. On avait qui d'autre ?
Il y avait, j'avais dit une bêtise, François Mollande. Non, c'est ça ?
François Mollande.
François Mollande et sa fille jolie et gayée.
Voilà. Il y avait des étreintes cannibales qui se passaient à l'Élysée. On avait aussi une sorte de nonne dans un texte qui s'appelait Le Mascara, la volupté et ses embarras. On avait Michel Jacon, sosie orificielle de Michael Jackson. Voilà. Et on avait beaucoup de choses politiques, effectivement.
Ouais. Il y avait cette période, 2015, c'est une période qui est un peu charnière aussi pour l'humour, parce que les attentats de Charlie Hebdo, dans un premier temps, où les humoristes ont été pris pour cible, en tout cas les dessinateurs de Charlie. Du coup, quand tu arrives avec des personnages comme ça qui sont liés à la politique, etc., est-ce que les réactions du public cette année-là, on sait que ça a été un peu particulier dans les salles de spectacle à ce moment. Comment tu l'as vécu ?
Vraiment, après, chaque fois qu'on était en train de répéter le questionnaire fou, on a eu des attentats. Vraiment dans les périodes de répète, de longues répètes. Donc on a eu Charlie Hebdo en pleine répète, je me rappelle, on était en pleine répète. Et ça s'est arrêté, on a vu les voitures, les trucs. Et pareil pendant ceux du Bataclan. Et après les attentats. Alors, non pas que moi, je ne m'autorisais plus la satire, j'aurais continué à me l'autoriser, mais les gens n'avaient plus trop envie de rire de politique, je crois, surtout. Enfin, ils avaient envie de rire d'autre chose, ils avaient envie d'aller ailleurs, d'aller dans une chose peut-être plus artistique que de retourner sur les figures. Enfin, se moquer de François Hollande ou d'un homme politique, de sa femme, de ses habitudes ou de son bidon, c'était moins... Enfin, ça n'avait plus de sens, quoi, en quelque sorte. Ça prenait plus de sens. Donc, du coup, ça, on a réfléchi aussi le spectacle avec ça. Pareil, Marine Le Pen, je me suis toujours posé la question, c'est-à-dire dans les spectacles, je veux à aucun moment être porteuse d'une morale. Parce qu'à partir du moment où je fais ça, c'est fini pour moi, j'arrête. C'est-à-dire que c'est rester toujours sur l'endroit où on ne sait pas. Où on ne sait pas et on laisse à penser aux gens qui viennent voir. Jamais, je veux vraiment jamais être à l'endroit où je suis une donneuse de leçons d'un certain bord ou d'un autre qui va dénoncer, appuyer sur le bouton de la dénonciation et dire ah non, c'est pas bien. Ça veut pas dire que je suis pas engagée, mais je suis engagée plutôt à ce qu'on réfléchisse, plutôt à ce qu'on soit d'accord avec moi, qu'un public qui est d'accord avec moi vienne voir ce que je fais et soit d'accord. Ce qui est un peu complexe parce que c'est plus difficilement identifiable, mais en tout cas, c'est l'endroit que je préfère. Voilà.
Oui, c'est vrai. Étant donné que c'est très écrit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on voit le côté littéraire, on voit le côté travail écrit, effectivement, mais on se dit, bah, oui, mais en fait, déjà, le temps de comprendre tous les jeux de mots que tu fais, etc., est-ce qu'on peut passer peut-être éventuellement à côté de la référence qu'il y a derrière et de l'idée, en tout cas, que tu veux faire passer ?
Ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a dans les spectacles, hein, on va revoir un autre extrait parce que ça vous saurez de quoi on parle. Mais il y a plusieurs niveaux de lecture puisqu'il y a des jeux de mots. Donc il y a le jeu de mots accessible d'abord. Il y a ceux qui rient au jeu de mots. Il y a ceux qui préfèrent le côté plus profond qui est derrière. Il y a vraiment différents niveaux de lecture, moi je pense réellement.
Moi j'aimerais bien qu'on te voit jouer. Alors c'est pas tout à fait un extrait du questionnaire fou, mais c'est un extrait qui a fait partie de la dernière version puisque le spectacle a été joué pendant 2 ans entre 2015 et 2017, et sur la toute dernière version de ce spectacle-là, tu faisais une ébauche de ce qu'on va voir là maintenant, qui est un passage qui s'appelle Stéréotype, dans lequel vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte du travail que fait Lauréline aujourd'hui.
Ça y est, enfin. Je m'appelle Lauréline Kunz. Et non pas Kourou Koukounz, Miklin Krutsch, Lunch Flunch Kounz ou Vol au-dessus d'un nid de Koukounz. Lauréline Kunz, femme, 39 ans, européenne, citoyenne, auteuse, chanteuse, slameuse, musclée, grasse, mariée, grand nez. C'est un peu court. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Tenez, par exemple, en variant le ton, chirurgical, asthmatique, astigmate, myope, grand beau nez. Grand beau nez. J'aime la choucroute et le houmous. J'ai un début d'anus valgus, un kératocone à l'œil, j'ai subi 2 césariennes. Je suis rarement malade, j'aime pas les balades, j'ai déjà fait des tonneaux en voiture. Conceptuel, j'écris bien. J'aime regarder des images porno sur le net. Je fais des recherches absurdes sur Google. J'étais bonne à l'école et tricheuse. Je vérifie tout. Je fuis le buzz. Je suis crasseuse, contrariée, maligne, engagée, détachée, rageuse et rebelle. Œcuménique. Je suis laïque, tolérante, tendance baba cool résignée, rigide, moraliste, alsacienne, cool et critique. Je ne divulgue rien de ma vie privée. J'ai des amis alcooliques. Je suis honnête et voleuse, jalouse et bonne amie, j'ai les pieds plats, mais les seins fermes. Dans le métro, je dis pardon même quand on marche sur le pied. Célébrité. J'ai 4,5 étoiles sur Billets et du cœur. On m'a déjà cloné un site internet sans permission. Demander des photos dédicacées en Belgique, je suis fichée X, genre actrice incognito du topito. Éthique. Je ne crache pas dans la soupe, hein. Je suis prétentieuse et modeste, intello et grotesque. J'ai pas toujours beauté, j'ai déjà fait un discours pour un élu, je fais du show business et du socioculturel, j'ai pas peur en banlieue et je passe bien dans les pinces-fesses. Je hais les politiques, sauf ceux qui sont mes amis. Iconoclaste, je sais imiter Luchini. C'est merveilleux. C'est formidable, c'est génial. Allez con, on en crève de bêtises infinies. Mieux vaut les merveilleuses émanations du sexe et du verbe des textes que les atroces enfers de la banalité quotidienne et de la crise. Et je sais aussi imiter Depardieu. On n'est pas bien là. Mon petit Vladimir au nez à la fraîche est décontracté du gland. On capitalisera quand on aura envie de capitaliser. Alors je savais faire Sarkozy, mais ça, je vais vous dire. Et ben c'est fini. En vrac, je suis fâchée, sentimentale, passionnée mais pleureuse, frissonnante heureuse. Je crois à mon horoscope quand il est bon, mais pas aux superstitions, j'ai des vrais amis garçons. J'ai eu ma première relation sexuelle à Je mets un peu de crème anti-rides, je mets une pointe internet, aucune photo privée. Je suis pour l'ouverture des savoirs et pour le droit d'auteur, pour l'ubérisation de la société et pour être rémunérée à ma juste valeur. J'ai peur du Big Brother et je m'en fous, j'aime le théâtre, la grosse tête, ma manière poésie, le rap et le stadi. Je suis un garçon manqué, une fille réussie. Je suis éclectique et pointue, populaire et tendue, tendance schizophrène, chevelue. J'enseigne, je me renseigne, je connais sur les questions, je contre tout, j'ai pas trouvé la vérité, j'argumente. Je suis paradoxal et zinzin, j'avais contre-pétri et les alexandrins. Les poètes positifs et les auteurs bipolaires, j'ai un compte de sang rare, je suis fiché à la banque de sang, je me documente sur Facebook principalement, j'aime la culture populaire et les gens urbains, je me demande qui va gérer mes données, j'aime le 30 de sorcerie, les gestions du bon procédé, le universitaire. Je crois à la possible révolution des robots. Je lis tout très vite, le grand politique, les people, le contenu du Bolsonaro, la littérature classique, les polars et les textos, les manifestes et les théories de complot. Je sculpte net, je scrolle les murs, je décrypte la raison politique, je m'ennuie lors des débats et je trouve fascinant la langue de bois. Je suis incorruptible. Parfois, je vais voir des films en fonction du nombre d'étoiles et de l'orientation politique d'un journal. Ensuite, je lis les critiques après avoir vu le film pour savoir si je suis raccord avec mon journal. Je crois tout savoir, je ne sais rien, je suis arrêté par le cours de pensée, je vais gagner, je vais consenter la bien-pensance, je comprends tout, je t'en ai rien. Je suis engagée, mais ouverte, nihiliste, dadaïste, mais romantique. Je suis sur Twitter, mais ça me fatigue. Je suis sportive, mais ça me coûte, j'ai une version Y et datée, innovante et en doute cataloguée. Équilibriste de la langue, jongleuse de mots, catcheuse vocale. C'est un peu comme catégorie kermesse, cirque, ballon, fête à neuneu. J'aime trop les mots, tous les mots, très ratés, pétés dans ma bouche, les mots cool, les mots coca, les mots d'apôle, les mots bleus, les mots merguez, je suis rapide, synthétique, très potreuse, je parle dans le milieu, mais je respire jamais. Je suis myope, dyslexique, apathique, obsessionnelle, mon mec, inventé en tout, multi-voix, compulsif, sexe, réaliste. Voilà! Voilà ce que vous m'auriez dit si vous aviez de l'intuition et du féminin. Du sentiment et de l'esprit. Moi, c'est éthiquement que j'ai mes élégances et mes vérités. Ce que vous voyez comme le nez au milieu de la figure n'est que sur moi superficiel et vaine conjecture. Empanaché de ma complexité singulière et fleurie, mon nez est bien laid, mais mon âme cambrée secrète est si jolie. C'est une histoire d'éthique et non d'a priori. Et comme disait ma grand-mère alsacienne, arrête de te plaindre. Pendant la guerre, on se plaignait pas. Mais t'es contente à Paris. T'as des amoureux. Eh ben, il faut plutôt un mari. En plus, t'es vieille et t'as un grand nez. Mais bon, grand clocher n'a jamais dénaturé belle église.
Bravo. C'est assez fascinant, cette écriture, parce qu'elle fonctionne sur plein de ressorts différents. Il y a à la fois l'opposition, il y a le débit performance, il y a les images, les métaphores. Enfin, comment tu l'as écrit, ce passage-là ?
Alors, celui-là, je l'ai écrit, à vrai dire, c'était la première version de ce texte, c'était une commande. On m'a demandé de faire des chroniques, on me demande souvent d'être... je sais pas, officiante, maîtresse de cérémonie. Ces vacances, j'ai marié mes amis. J'ai marié des amis. J'étais curée ces vacances. Enfin, laïque, mais j'ai marié des amis. Donc, toutes les cérémonies, si vous avez, je sais pas, un anniversaire, une bar mitzvah, une conférence,
TEDx, disponible.
Je les fais toutes. On me demande toujours, on me dit, toi qui sais écrire, tu veux pas venir faire un truc et tout. Voilà. Donc, on me demande toujours de faire ça. Et là, c'était le sommet pour un gouvernement ouvert, donc une conférence énorme internationale sur la démocratie qui avait lieu au Palais d'Iéna. Et il y avait Stéphane Paoli, je ne sais pas si vous connaissez, c'était ce présentateur à la radio qui animait des débats. Et moi, je devais faire un texte d'introduction. Et il y avait chaque fois des thématiques absolument romantiques et glamour, comme la démocratie locale, voilà, ou des choses comme ça. Et ce texte-là, je l'ai écrit pour un texte sur la data. Vous savez ce que c'est la data ? C'est toute la somme de toutes les informations qui circulent en permanence avec tous les nouveaux moyens de communication qu'on a. Les informations qui sont collectées par Facebook, les informations qui sont collectées par tous les sites et qui sont sur nous, qui font que quand on a regardé une chaise, on a 50 chaises qui arrivent en publicité sur le bord de notre adresse email. Et pour écrire ce texte sur la data, j'ai pensé à ma data à moi. Et ce texte, c'est ma data à moi. Voilà. C'est toutes mes informations ensemble, mélangées, en vrac, comme ça, à analyser comme de la data. Voilà.
Alors là, je me tourne vers Cécile, qui est donc la metteur en scène, qui est là, je vois vaguement dans l'ombre. Quand Laureline arrive comme ça, avec un texte aussi dense, aussi fourni, qui est ultra drôle hein, quand même, il faut le dire, quel est le travail que toi tu fais en tant que metteur en scène pour faire résonner ce texte-là sur scène ?
Respire, me dire. Respire, respire. Tout ce travail, c'est un travail de rythmique.
Ouais.
C'est comme avoir un morceau de musique et donner une valeur à chaque note. Donc, évidemment, pour qu'elle puisse accélérer, c'est de demander que ce soit plus calme et plus posé au début. Mmh. Ça, c'est une chose simple.
Oui, puis créer de la tension dramatique.
Créer de la tension. Mais après, c'est aussi physiquement tout ce qu'on peut mettre en plus pour donner du volume, pour donner de la consistance à tous ces mots.
Ouais.
Et puis, c'est faire entendre tous les mots, surtout.
Oui.
C'est qu'il n'y ait pas un mot qui passe à la trappe. Il faut que tout soit là et que tout résonne, d'accord, tout le temps.
Ok, vous avez travaillé longtemps. Enfin, du coup, vous travaillez que depuis le questionnaire fou, toutes les deux,
oui,
ensemble.
Alors, Cécile, oui. On s'est rencontrés parce que dans le fameux Horror Picture Show dont tu parlais, oui. Le Cabaret Queens, elle a joué mes textes. Donc, d'accord. Elle connaissait cette langue parce que tous les metteurs en scène n'arrivent pas à rentrer dans, tu vois, ces inversions de mots, ces mots dans tous les sens, c'est très touffu. On se dit, oh là là, il y en a plein. Ça peut effrayer quelqu'un, oui, qui, oui. Par exemple, quelqu'un qui est adepte de l'épure. Voilà, c'est pas mon endroit. Et Cécile, donc, les avait jouées. Et comme elle les avait jouées, elle les connaissait. Donc, elle, voilà. Et on avait travaillé avec un metteur en scène et on avait travaillé ensemble et on a eu envie de poursuivre ce compagnonnage. Et comme Cécile est vraiment une actrice de théâtre et de cinéma, c'était aussi une sorte de compagnonnage dans la transmission, ouais. Aussi du jeu. Parce qu'après, moi, il y avait cette chose-là de savoir dire plein de mots qui vont vite, mais pour faire un spectacle, de temps en temps, c'est bien aussi d'arriver à d'autres...
De mettre de la nuance.
D'autres aspects de jeu. Voilà, le texte performatif, ça marchera toujours, quoi. Mais c'est chouette de mettre des nuances aussi dans d'autres textes, aussi de garder, on garde la performance, de respirer, de trouver des silences, de trouver d'autres endroits de jeu.
Moi, ça me, enfin voilà, j'ai vu aussi en avant-première le prochain spectacle de Laureline qui s'appelle Actrice française, dans lequel ce passage que vous venez de voir là maintenant est aussi, enfin apparaît également. On sent, puisque tu parlais tout à l'heure de la performance, a vraiment été très présente dans ton travail. Voilà, le débit, la vitesse, voilà. Et tu t'autorises finalement aujourd'hui. Dans ton écriture, à parler de plus en plus de toi et à faire évoluer cette écriture vers quelque chose de plus personnel, mais qui finalement touche à l'universel, en fait. C'est ce qui se passe dans Actrice française, en fait. Tu te mets un peu plus à nu aussi.
Oui, et c'est vrai qu'à...
cache moins derrière la performance, ouais. En fait.
Je pensais que c'était pas très intéressant de parler de soi, et voilà. Et finalement, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis bon, comme je vieillis et tout ça, forcément, on commence à faire d'autres choses. Mais non, surtout, j'ai beaucoup aimé dans certaines choses que j'ai vues récemment l'autofiction. J'ai toujours aimé aussi en littérature les gens qui se racontaient en autofiction, c'est-à-dire qui font leur histoire, mais qui la romance, qui la transforme un peu, qui l'enjolive. Mais j'ai eu quand même envie de raconter des choses personnelles, donc sur ma vie, mes emmerdes, mon mari, mes enfants, le spectacle, le fait d'être actrice, les producteurs, enfin tous ces sujets un petit peu qui me semblaient un peu bateaux, mais en partant vraiment de tout ce qui était vraiment l'intime, la vérité, toutes les anecdotes dans le spectacle sont vraies, tout est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que c'est aussi vrai que ça, je sais pas. Tout est vrai, tout est entendu, vécu, je sais pas. Et ce sera le prochain spectacle et vous aurez des choses inédites.
D'accord. Il y a un autre extrait que moi j'aimerais bien qu'on regarde qui s'appelle Isabelle Huppert, puisqu'on ça fait écho à tout ce que tu viens de dire sur le fait de parler un petit peu plus de soi dans l'évolution, en tout cas de ton travail, où tu te rapproches plus du stand-up finalement. Oui. Enfin.
Et puis alors du coup, je pense aussi que le fait de m'être posé cette question d'être des comédiennes. Je me suis aussi questionnée sur les comédiennes, enfin oui, sur la fascination, oui, oui. Tu vois, du stéréotype des comédiennes,
oui,
où pour moi c'est des espèces de choses lointaines, hyper maigres, très voilà. Et je me suis questionnée là-dessus en lien avec mon parcours personnel et avec une envie que j'avais toujours. C'est une adresse toute simple et directe qu'on peut avoir dans certains textes, mais qui est peut-être plus facile d'avoir avec un autre niveau de langage. Et donc que j'utilise maintenant aussi en travaillant sur de la matière des rêves, sur des choses qui me sont arrivées, en les racontant plus simplement, en les improvisant un petit peu. Donc une chose un petit peu moins littéraire.
Voilà. D'accord. Si on peut lancer du coup la vidéo de Isabelle Huppert, comme ça vous aurez l'image à la parole.
Mon mari veut un deuxième bébé. Je suis tiraillée, je me dis, attendons un peu, je sais pas si quelque chose se passe dans ma carrière. Hein. Un rôle, un contrat, un miracle. Moi, si j'arrête de travailler, tout s'arrête. Hein. C'est le tunnel. Hein. Tout le monde m'oublie. Je vais m'arrêter de travailler, je vais finir prof frustré de comédie théâtrale pour amateur ingrat dans une obscure MJC. C'est tellement dur pour une actrice d'avoir des enfants. Moi, si j'arrête, tout s'arrête. Le temps passe, les jours passent et je me dis attendons un petit peu. Mon mari me dit, tu veux pas un bébé, un joli petit bébé. Oh non, pas tout de suite, j'ai encore tellement de choses à vivre. Une nuit, alors que je rêve jamais, je fais un rêve. Je suis dans un hôtel particulier, magnifique, immense, dans une chambre à la lumière tamisée, moquette épaisse, drap de soie. Je suis devant un miroir et je joue avec du maquillage de marque. Ouh, je me maquille, c'est des trucs, c'est super beau. Et puis tout à coup, j'entends un bruit. Et dans le miroir, je vois Isabelle Huppert, qui me regarde avec son regard d'Isabelle Huppert. Elle me dit, bonsoir. Je lui dis, ah, je me retourne, je lâche tout, je dis, ah, bonsoir. Elle me dit, on va dîner. Je lui dis, bah, oui. Elle me dit, mon mari sera là, votre mari sera là. Je lui dis, ah, je sais, ah, pouf, mon mari apparaît. Il sourit comme ça, il a l'air un peu con. Vous savez. Je viens pour format dîner, il y a Isabelle Huppert qui nous invite. Dépêche-toi, souris, sois gentil. Il me dit, et les enfants? Je dis, les enfants? Quels enfants? Ben, les enfants n'ont jamais eu d'enfants. Nos enfants, pourquoi les enfants? Pourquoi on a des enfants? Jamais, non. Et là, il ouvre les fenêtres de la grande tour. On est désormais tout en haut d'un château. Et dans un jardin versaillais, je vois nos enfants, des milliers, des centaines de milliers d'enfants qui jouent. Je fais, coucou maman, c'est maman, mon chéri. Et là, je sens le regard, la profondeur de regarditude d'Isabelle Huppert qui me transperce le dos. Je referme la fenêtre d'un coup et je dis, les enfants, quels enfants? Pff, on n'a jamais d'enfants, nous avons des enfants. Quelle idée des enfants? On va dîner avec Isabelle Huppert. Il me regarde comme ça, mon mari, il me dit, oh, c'est génial, waouh, on va dîner avec Meryl Streep. Ah, Huppert, chérie, Isabelle Huppert. Et on suit la silhouette d'Isabelle Huppert qui chaloupe devant nous, menue, immuable et forte, et qui ouvre la porte géante du château où nous sommes désormais, laissant là nos milliers d'enfants abandonnés. Je ne suis pas sûre pour le désir de deuxième.
Donc ça, c'est un très bel extrait donc, de ce spectacle à venir, Actrice française. Ça me fait tout de suite... Enfin voilà, je pense, comme tu disais tout à l'heure, le stéréotype autour de la comédienne, de ce que c'est que d'être une actrice encore aujourd'hui en France et dans le monde, c'est pas simple finalement. Et est-ce que c'est un peu militant quand même de faire un texte comme ça où, en gros, ce que tu dis, c'est bah, oui, je suis une comédienne, mais je suis aussi une femme, j'ai des enfants, j'essaye de tout concilier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce métier nous laisse le faire? Enfin. Comment tu vis, toi te...
bah, il nous laisse le faire à condition de ne pas trop grossir. Hein. Non, oui, c'est, je ne les écris jamais en pensant à une chose militante, parce que ça, c'est un rêve que j'ai fait. Donc, c'est plutôt le résultat de mes problématiques. Ouais. Donc, en ce sens-là, c'est très concret. C'est vraiment le rêve tel qu'il s'est passé. D'ailleurs, c'est la première fois que mon mari le voit. Coucou. Et ce rêve s'est passé vraiment de cette façon-là. Et c'était les problématiques que j'avais. Je rêvais énormément. Et j'avais envie de le dire, parce que du coup, ça posait problème. C'est que ça me posait un problème si je rêvais toutes les nuits d'Isabelle Huppert, de Meryl Streep ou d'autres personnes. Et donc, ça, en creux, ça dit les problématiques d'être actrice, mère, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai remarqué une chose, surtout, c'est que... alors, actrice névrosée, divorcée, célibataire, torturée, ça pas mal. Actrice multidivorcée, c'est vachement bien. Actrice qui met des photos de ses enfants sur les comptes Instagram avec des jolies choses, c'est très très bien aussi. Mais une mère de famille, actrice mariée, avec deux enfants, une vie normale, ben c'est un peu chiant. Et donc ça, c'était plus compliqué. C'était plutôt ma problématique, c'était cette question-là de, sur les stéréotypes que moi j'avais sur les actrices, à vrai dire. On imagine son, voilà, sur les actrices, les gens connus.
Puis c'est le stéréotype de l'artiste malheureux, quoi, qui a besoin de souffrir pour créer, alors que ça n'a pas l'air d'être du tout ton cas, en fin de
compte. Pas du tout. Moi, j'écris dans la joie, dans la grande joie. J'écris même les choses morbides, même les choses trash, même les choses horribles. Je les écris avec une grande joie, qui est la joie de la langue, la joie des mots, la joie de orale, comme ça, de goûter les mots. Et vraiment, cette joie, t'es dans la joie. Même les choses, le texte du serial killer dont je vous parlais au début, je l'ai écrit avec beaucoup de joie. J'ai écrit avec beaucoup de joie comment il tuer chaque personne. Voilà.
Cette joie, tu as envie de la transmettre, si je ne me trompe pas, puisque depuis quasiment le début de ta carrière, tu formes, que ce soit des comédiens, des stages AFDAS, mais aussi des jeunes, des ados, des gens plus âgés, dans le cadre d'ateliers que tu fais. Alors, beaucoup dans le 14e, si je ne me trompe pas, puisque c'est là que que tu résides depuis toujours, depuis que tu es arrivée à Paris. C'est important de transmettre cet amour des mots. Surtout aujourd'hui, et je vais faire un peu ma journaliste réac de Télérama, où le langage texto prime. Enfin voilà, on écrit qui, KI, on fait plus d'efforts, etc. Et je m'inclus dedans, hein, attention. Mais enfin voilà, est-ce que c'est important de transmettre ce goût de la littérature, de la poésie, des mots des publics qui ont accès ou pas finalement?
Alors, il y a plein d'aspects à ça. D'abord, c'est important, c'est pas pour corriger les fautes, parce que les fautes, dans ce que je fais, finalement, peuvent enrichir presque le langage. Mais c'est plus pour dire c'est possible. Tout le monde peut écrire. Ça, vraiment, c'est mon. Voilà, tout le monde peut écrire, c'est pas si difficile, c'est pas une montagne. Et d'ailleurs, quand je vais dans les ateliers, tout le monde a envie d'écrire. Tout le monde a incarné. Tout le monde a écrit des notes. Tout le monde a dit, oh, j'aurais bien aimé écrire une chanson. Vraiment, les gens écrivent beaucoup, mais n'osent pas l'avouer. Et il y a ce versant-là. Il y a le versant aussi qui est vraiment celui qui est dans les quartiers difficiles, que je fais depuis le début. J'ai arrivé à Paris à 17 ans, j'étais animatrice BAFA dans les carrés à Nanterre. Voilà, oui, j'allais en mini-jupe à Nanterre avec les enfants.
Tu dis, tu passes aussi bien en banlieue que dans les pinces-fesses.
Oui, c'est ça. Mais je suis habituée. Je pense que je suis habituée à aller dans ces endroits différents et j'aime bien. Et j'aime aussi parce qu'il y a une vitalité de la langue, de l'invention des mots. Je sais pas vous là, vous êtes très jeune et tout ça. Vous parlez, vous dites plein de mots qui sont absolument merveilleux, moi je trouve, et qui sont ou des néologismes ou des nouveaux mots qui sont inventés. Mais je trouve que la vraie force, c'est de maîtriser ce niveau de langage et un autre niveau de langage et encore un autre niveau de langage et d'avoir accès du coup à plein de choses différentes et pas d'en maîtriser qu'un seul. Et donc j'adore donner ces ateliers aussi en banlieue parce que du coup j'apprends plein de mots, c'est hyper vif, c'est hyper vivant. Et donc effectivement, on donne des ateliers avec l'académie d'expression, que j'ai, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des ateliers de d'écriture, de slam, de théâtre, de jeu, d'improvisation, de vidéo. On fait des vidéos. Tout est bon pour essayer d'ordonner, de transcrire sa pensée, quoi. Et tout est possible, tous les moyens d'expression. Peut-être ça, c'est ce qui est pour moi important, c'est que quelle que soit l'expression, ce qui compte, c'est de pouvoir dire la chose au final, pouvoir la sortir. Comme le film qui était aussi un texte avant écrit pour le théâtre, qui devient un film.
Ton autofiction avec François Rollin.
Le film Gentil avec François Rollin et qui raconte aussi une anecdote personnelle. Voilà. Donc les ateliers sont très importants. On les fait dans le 14e dans les quartiers prioritaires, mais aussi dans d'autres endroits quand on est appelé. Et c'est très demandé là. Il était très demandé par les professeurs. C'est vrai qu'il y a un oral maintenant pour les lycéens, n'est-ce pas? Voilà. Voilà.
Comment il se passe ces ateliers? Du coup, tu leur chacun arrive avec un petit texte et toi tu travailles à partir de cette matière-là ou
C'est très différent et j'ai vraiment des gens très différents. Ça va de personnes qui arrivent à peine à parler français à des gens qui sont je sais pas qu'on dirait CSP+, qui sont déjà aguerris. En général, j'aime bien que tous ces gens soient un peu ensemble parce que ça crée une certaine écoute. Et l'idée, c'est de partir de l'idée, d'essayer d'ordonner l'idée, de trouver un sens. Par exemple, j'aime bien, si vous n'avez pas à faire un plan, moi j'aime bien dire, prenez un bic 4 couleurs, écrivez toutes vos idées, et puis avec le bic 4 couleurs, vous soulignez de la même couleur les idées qui vont ensemble. Vous arrivez à organiser un plan déjà avec ça. Donc des choses très simples, la plupart du temps, c'est juste pour oser ce premier pas, quoi, et décomplexer l'écriture. J'aime pas du tout les faire dans les classes, par exemple. Je préfère sortir les gens de l'école. Parce que du coup, la parole est plus libre, on peut s'autoriser plus de choses que dans la classe, même si j'en ai aussi fait en classe, voilà.
Comme Mark Smith, dont on parlait tout à l'heure, Mark. T'essayes de rendre la littérature, la poésie et l'amour des mots un peu moins ennuyeuses que l'image qu'on peut lui coller, finalement.
Je trouve pas ça ennuyeux, parce que je suis dans une langue orale, donc une langue qu'on va dire, qu'on va parler tout de suite, c'est vraiment une langue qui est vivante, qui est dynamique, qui est une langue parlée, et rien n'est interdit, ni l'argot, ni le langage familier, ni les inversions de mots, ni les fautes, tout ce qu'on peut faire, qui pour moi est pure poésie, voilà.
J'ai une question pour toi, la fan de rap, du coup, du PNL, tout ça, c'est...
Alors, j'ai un débat à la maison sur PNL... Voilà, moi je trouve que quand il dit
il y a vraiment un langage qui leur est propre.
Moi j'aime bien PNL, quoi. Voilà, oui, j'aime
moi
bien
aussi,
PNL.
Hein, mais...
Je le dis devant vous pour ceux qui savent pas. Ils ont un langage, ils ont un code, ils ont une façon de parler, donc ils ont une forme, donc ça m'intéresse. Voilà.
Moi j'associe souvent parce que l'humour, je suis depuis 5 ans à Télérama, les humoristes et les stand-uppers comme toi, c'est un peu ce sont un peu les rappeurs des années 80-90 finalement.
Ça me fait plaisir. Hein.
Non mais enfin voilà, ils véhiculent énormément de que ce soit de la pensée ou une espèce de vision de la société dans laquelle on vit, et c'est une arme de réflexion massive. Je crois que c'est l'humoriste Haroun qui dit ça. Et finalement, l'oral, le fait de s'adresser comme ça au public, c'est partager aussi un peu sa vision du monde. Enfin, et toi, c'est ce que tu fais à la fois sur scène et à la fois dans tes ateliers, finalement.
Ouais. Et puis les rappeurs ont aussi cette chose-là qui est quand même au départ, le rap, c'est quand même pour dire quelque chose, d'avoir en tout cas une forme d'engagement. Alors, pas tous les rappeurs aujourd'hui, il y a du rap électronique, tout ça. J'associe aussi que j'ai électronique et un peu moins comme ça. Mais c'est quand même l'idée de. Tous les premiers textes que j'ai écrits étaient écrits sur la colère. Donc c'est un peu le même modus operandi que les rappeurs. Donc écrire parce qu'on est énervé contre quelque chose et qu'on veut cracher un texte, quoi. Voilà.
Je terminerai avec cette question terriblement d'actualité. Est-ce qu'on peut tout dire?
Ah, oh là là. Tout dire si on y a pensé avant.
Et si c'est bien écrit.
Si on y a pensé un petit peu, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ok. Ouais. Très bien.
C'est pas gratuit.
Alors, la conversation avec Laureline se termine par un petit jeu. Je ne sais pas si vous avez lu la présentation de cette discussion aujourd'hui, mais on va terminer avec ce que Alors, on va faire peut-être d'abord l'exercice. Alors, c'est un exercice qui s'appelle l'écriture minute, que tu as l'habitude de faire dans tes ateliers, en fait, c'est ça ? Enfin,
oui,
tu peux
souvent.
Nous présenter ?
Alors, je vais vous demander, on va aller vite, on va le faire ça très vite tous ensemble. Je vais vous demander
ensuite,
d'être très interactif.
Il y aura quelques questions du public.
Et de surtout pas vous poser de questions. Je vais me lever.
On va vous donner une petite colle. Ok. Tu es prête ? Et donc, vous rendez des DSP pour la fin de l'heure, s'il vous plaît.
Noter,
évidemment. Ok, c'est parti. Dans la même humeur, vous êtes là. Dans la même ambiance, exactement. Quand vous êtes là, je vais vous demander de me dire très haut, les uns après les autres, tous les mots que vous aimez. C'est parti, vous me dites tous les mots que vous aimez pour leur son, pour leur sens, pour la beauté du mot. Vous avez le droit aux onomatopées, vous avez le droit aux mots d'argot, aux mots familiers, à tous les mots qui vous plaisent. Vous me les dites, on les dit très vite, on les inscrit là, et après je vous dirai ce qu'on va en faire. Et j'aimerais que ça aille très vite et que tout le monde donne des mots. Si tout le monde ne donne pas de mots, je vais leur passer dans le public et vous nommer. D'accord ? On va partir comme ça. N'ayez pas peur, une fois que ça se lance, en général, ça se lance d'un coup. Les mots que vous aimez, c'est quoi ?
Gribouillis.
Gribouillis. Plus fort. J'entends pas. Zopi. Tu l'écris comme tu veux.
Zopi. Rasoir.
Ok.
Rasoir.
Rasoir. Parlez bien fort quand vous dites le mot.
Escargot.
Escargot. Elle écrit, on lui laisse le temps d'écrire quand même. Ici. Hurluberlu.
Je sais pas. Hurluberlu.
C'est pas grave, c'est écrit pour là, l'intérêt, c'est pas, on n'est pas sur l'orthographe ici.
Pompidou.
S-I, si, yes. Tortue.
Tortillon.
Saperlipopette. Saperlipopette.
Chanter.
Libellule.
Humide.
Fracassant.
Rhapsodie.
Boutade, rhapsodie, ça va ?
Chandail.
Boutade, rhapsodie, chandail. Carotte. Les jeunes, vous avez plein de mots qu'on ne connaît pas.
Carotte.
Daronne. Excusez-moi, je suis sourde.
Galimartia.
Tiac.
Gougnafier.
Oh là là. Ce sera bon mot, attention, hein. Là-haut, quelque chose à mot.
Trouille.
Yankli.
Délicat.
Délicat.
Falafel.
Divulgâché. On a déjà des poètes ici. Allez, m'en faut plus, hein. Ça suffit pas. Passionné.
Oli Gobson.
Je sais pas.
Elle écrit comme elle veut, vous savez quand vous pouvez. Ici, il y en a d'autres.
Feuille.
Allez, plus vite, plus.
Filon.
Débandade.
Éclipse.
Rebelle, hein, voilà. Ici au milieu, par là.
Anarchie,
extravagance.
Voie lactée.
Acide. C'est l'exemple qu'on utilise toujours en atelier, celui-là.
Militaire.
Oui. Lactose.
Derrière un peu, derrière. Les deux jeunes femmes par là-bas. Et la jeune femme à côté.
C'est parfait. Tout est parfait.
C'est la chimie, ça, c'est des cours de chimie.
Amertume.
Amertume. Hauteuse. Atome. Parle fort, j'entends pas. Boulet.
Un boulet.
C'est des bruits de vent, j'entends pas. On fait du silence là, faites un peu doucement. Vous avez vu les mots qu'il y a là, hein? Gribouillis, zombie, rasoir, escargot, le berlu, pompidou, tortue, si, tortue, tortillon, ça parle hypocrite, chanté, libellule, humide, fracassant, rhapsody, boutade, chantaille, chandail, daronne, gallimartia, gougnafié, trouille, yankri, délicat, falafel, digue, gâché, passionné, oligopson, feuille, dérondade, éclipse, rebelle, extravagance, anarchie, voie lactée, acide, acétylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylixylix
Un an, on était déjà. Dénonciation, moula, empiaffé, tétrelle, amertume, honteuse, hypochondriaque, boulée. Je vais vous demander une chose. Vous avez un petit papier devant vous? Vous allez devoir écrire 10 lignes. Et c'est noté. Non, j'ai pas. Vous allez écrire 10 lignes. Vous écrivez chaque phrase commence par je. Vous parlez de vous en ne vous servant que de ces mots. C'est bon, vous allez en rajouter des mots. Et je veux 10 lignes. Vous pouvez par exemple dire je sais pas, je suis l'urluberlu escargot à Pompidou, je suis comme une tortue dans le tortillon de la Satan l'épopée. Je chante les libellules humides en fracassant le rhapsodie de la boutade. J'ai le chandail qui trouille, je suis un lion qui délicat. J'aime les femmes à faire, je suis passionnée de feuilles et je débande régulièrement. Je suis une éclipse rebelle, extravagante, anarchie, voie lactée. De l'acide, je suis dans, je suis pas acide, je suis militaire, lacteuse, je dénonce les moulins empiaffés avec des grosses tétrelles, j'ai l'amertume honteuse, je suis hypochondriaque, un boulet hypochondriaque. Voilà, vous écrivez 10 phrases comme ça, en juxtaposant des mots, vous créez vous-même vos métaphores et vous décrivez vous. Vous parlez 10 lignes, ok? Vous avez 5 minutes. Ensuite, je garde le texte pour écrire des textes. 5 minutes, et s'il y en a un ou deux qui veulent le lire, vous aurez le droit de le lire ici, ok? Vous pouvez commencer par je suis, je suis, je suis, je suis. Vous pouvez dire je suis le, et mais je suis aussi. Je suis ça et ça, je suis le, je suis la, j'ai, je veux, oui. Bien. Vous allez comme vous placer, vous voulez? Je vais l'agrandir.
Elle va l'agrandir, je vais essayer.
N'essayez surtout de ne pas penser à quelque chose. Pensez juste à ces mots, et quand vous juxtaposez deux mots, ils donnent un autre sens. C'est tout ce que je vous demande. Ne pensez pas à ce que c'est d'écrire. Par exemple, un falafel de Lucas, c'est très joli, non? Une lacteuse amertume, c'est pas mal, non? Écrivez vite, moi je vais passer. Thank you.
Encore une minute.
J'adore parce que c'est
parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, à vrai dire. C'est des jolis mots que vous avez choisis. Moi, je vous conseille, pour ceux qui voudraient continuer à écrire, de prendre une photo pour emmener les mots avec vous. Par exemple.
Je fais des gribouillis, bouillis aux obis, ces rasoirs comme l'escargot de Pompidou ou la tortue à tortillon, sa perlipopette. Je chante les libellules humides et fracasse la rhapsodie contre les boutades dans mon chandail mauve. Ma daronne est le gallimacia incarné, gougnafieuse, trouille en personne et enclie au falafel délicat. Jolie Gobson, la débandade des rebelles et les boulets hypochondriaques de la Voie lactée.
Quelqu'un en vie? Oui, j'allais vous demander à vous deux.
Monsieur
d'abord, et ensuite, jeune homme, là, j'allais demander si vous avez la fort intéressée. Pouvez-vous lever, monsieur?
J'avais pas compris que ça devait parler de soi, mais tant pis. Donc je suis une éclipse extravagante et rebelle, un galimatia d'escargot empli de délicate amertume, un tourbillon de tortue, une daronne humide.
Ok. Je suis un fracassant Yankee, empiaffé par l'extravagante moula. Mon chandail, avec des gribouillis de falafel, en tétraèdre, me fout la trouille des libellules. Zobby, c'est la débandade. J'ai inventé un rasoir militaire pour escargot. Je suis un gougnafier, passionné par l'éclipse rebelle qui dénonce l'anarchie de la Voie lactée.
Je suis un Yankee hypochondriaque, gougnafier qui est allé donner la délicate moula à un hurluberlu empiaffé. Zobby, j'ai reçu de l'acide acétylsalicylique, c'était fracassant. C'était fracassant, j'ai vu la Voie lactée, une libellule chanter comme une daronne rebelle. J'ai eu la trouille, c'est la débandade.
En bleu, en bleu, croix, et derrière deux parties.
Je suis un gribouillis sur le mur du centre Pompidou et parfois je chante comme un rebelle hypochondriaque avec une voix acide la dénonciation du falafel avarié qui m'a mis le foie moula. Le gougnafier qui m'a fait ça, c'est un boulet pire qu'une tortue empiaffée.
Oui, bon, on en prend encore deux. Je suis désolée, après, faut le couperet tombe.
Je passionne les escargots en chandail qui empiaffent les tortues extravagantes et hypochondriaques. Je fracasse ces gougnafiers de militaires qui me divulgâchent une boutade fracassante. Ma daronne dénonce les yankees anarchistes et les boulets à Pompidou contre une débandade rebelle et humide.
Ah oui, merde, je suis pas levé, pardon.
Bonsoir. Je suis l'escargot délicat sur le fil du rasoir. Je chante la honteuse amertume sur un rhapsodie fracassant. Je suis la libellule anarchiste qui gribouille ton divulgachie. J'aime la boutade humide, mais pas la débandade hypochondriaque. Je suis le falafel rebelle qui ne connaît pas le mot tétrelle. J'aime les hurluberlus hypochondriaques en chandail extravagant.
Qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant que vous êtes... Du coup, tous bien échauffés, bien dans les mots. Et ben, on va en profiter pour en poser d'autres, des mots, des questions à Laureline, puisqu'elle est là. Et voilà, si vous avez des...
D'abord, bravo. Hein.
Bravo ouais, à
bravo.
Tous. Mais voilà, on va profiter pour lui poser des questions sur son travail, sur elle.
Ça fonctionne à tous les coups, hein, quand même, cet exercice. Ouais. Enfin, c'est assez bluffant, quoi.
Ça marche très bien et c'est un peu démagogique. Après, il faut le retravailler, bien sûr. Après, il faut le transformer, l'essai. C'est un essai. Mais je trouve que cet exercice permet juste de... Pour ceux qui, pour qui ce serait compliqué, ça permet d'y aller très vite. Et quand j'écris, moi, je suis pas un être pensant, je suis un corps, avant tout. Voilà.
Tu réfléchis pas, tu laisses les mots venir et...
Alors, j'ai des idées avant, j'ai des idées après, mais quand j'écris, c'est charnel. Voilà.
Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des questions par rapport à, enfin, en rapport avec tout ce qu'on s'est dit pendant... Ah, il y a une question là-bas.
Moi, j'avais une question par rapport au stand-up. On en a touché un mot, par exemple, le stand-up actuel en France, qui est très inspiré du stand-up américain d'une certaine époque. Non, mais je parle vraiment d'inspiré, hein, pas de copie, mais qui est vraiment
il y a les
le.
Deux.
Oui, non, mais voilà, moi j'aime les bonnes choses. Et du coup, et le côté droit derrière un micro, où là c'est vraiment le pouvoir des mots. Mais il y avait quand même il y a 10-15 ans, voire 20 ans en France, ce côté sketch de l'humour français qui faisait participer donc le corps. Et qu'est-ce que toi, donc Laureline, t'en penses par rapport à cet humour qui évolue où on bouge beaucoup moins sur scène? Où on parle beaucoup plus, enfin où les mots ont plus d'importance qu'il y a 15 ans, où par exemple on prend des sketchs qui étaient vraiment un sketch et non pas un stand-up.
Oui, alors c'est vrai que ça a changé. On a des gens qui font un peu le mélange des deux. Il y a stand-up et stand-up pour moi. Tu vois, il y a Blanche Gardin et puis il y a d'autres stand-up. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je disais avant, tu vois, il y a des stand-up où il y a un personnage. Il y a quand même on sent qu'il y a un travail théâtral, même si on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et il y a le stand-up qui est vraiment juste simplement de dire, tu vois, ce qu'on a, ce qui passe par la tête, comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de stand-up travaillé quand même maintenant. Et encore une fois, j'ai pas un avis, je préfère pas une chose ou une autre. J'aime juste quand il y a cette forme, encore une fois, où il y a une recherche un peu de jeu, de travail, qu'on voit que c'est pas simplement comme on est dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'est pas comme on est dans la rue, on est différent. Et après, il y a beaucoup de gens qui font stand-up et qui mélangent les deux. Tu vois, toi, tu dois en voir beaucoup. C'est-à-dire qu'ils parlent au public, puis ils jouent un personnage, et ça s'est beaucoup mélangé. Et c'est pas gênant de mélanger, moi, je trouve. Par contre, si on parle de Gad Elmaleh à ses débuts, moi, je préférais quand il jouait les personnages. Il y a certains qui jouent tellement bien les personnages que ça m'embête un peu quand ils commencent à parler comme ça au public, alors que c'est pas nécessaire, ils n'ont pas besoin, à vrai dire. Je pense qu'il faut céder à aucune mode.
Moi, alors si je peux me permettre de juste rajouter, parce que c'est un peu mon dada, je pense aujourd'hui vraiment autant de types de stand-up qu'il y a de stand-uppers. Enfin, médiatiquement, on est resté sur quelque chose qui est très associés au Jamel Comedy Club, où c'était des personnes qui faisaient de la vanne sur ce qui se passait dans leur quartier, avec leur famille, etc. Machin. Aujourd'hui, on a une gamme de jeux. Alors évidemment, on pense tous à Blanche Gardin parce que c'est la méga star en ce moment, mais elle n'est pas
c'est
la seule.
C'est le point Godwin.
Ouais, c'est le point Godwin, Blanche Gardin, mais on la kiffe hein, quand même. Mais il y a plein de... Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, il y a vraiment des gens qui font ce qui s'apparente à du stand-up pur, mais où ils introduisent quand même des persos ouais, des pendant 5, 10, 20 secondes. Ça a l'air de rien, mais le personnage est quand même là, donc je pense qu'on ne peut pas résumer...
Et je dirais vraiment que dans l'écriture, il ne faut presque pas penser... Enfin, c'est au moment où tu penses à la forme et à ce que tu veux produire, à qui tu veux la... Enfin, il faut penser à ce qu'on a envie d'écrire d'abord et si on a envie de jouer, là on est bon et là on s'amuse.
Et puis il y a encore des gens qui font du one man show. Enfin, je veux dire, c'est aussi, ça n'a pas disparu quoi. Donc on parle beaucoup de stand-up aujourd'hui, mais il y a encore des gens. Alors moi j'ai vu Benjamin Tranier, je sais pas si vous connaissez. Bon, c'est un jeune homme qui a été lancé surtout sur Radio Nova, qui lui fait presque du théâtre tout seul. Enfin, il fait une pièce, c'est comme une mini pièce de théâtre. Il est tout seul, c'est pas vraiment du seul en scène, mais c'est très intéressant aussi. Et c'est très drôle. Donc voilà.
Ça va, ça a répondu à votre...
Parfait. Une autre question ?
Moi, j'ai une question sur l'écriture. À partir de quel moment tu te dis que quand tu as écrit un sketch, au bout de combien de fois tu repasses dessus ? Une fois, deux fois, au niveau des versions. À quel moment tu décides de te dire « ça y est, je m'arrête là »
Ça ne s'arrête jamais. Jamais. C'est sans fin, c'est comme apprendre à jouer, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'ai envie de figer les choses parce que j'ai peur de les perdre et je me dis « oh, il faudrait que je les range dans un coffre-fort, tous ces textes si beaux que j'ai écrits, que j'aime d'amour, comme mes enfants », eh ben, je le retravaille parce que ma metteur en scène Cécile me dit bah là, on va le couper un peu parce qu'il faudrait dans le spectacle, de cadre du spectacle, on va mettre un... Donc je recoupe, je retaille, je reprends, je les retouche. Ils ont 1000 versions. Après, on en décide une qui correspond au spectacle. Et ça, c'est une version, celle qui est dans le spectacle. C'en est une. Et puis il y a la version peut-être du texte en dehors du spectacle. Donc ça peut être deux versions, tu vois. Mais la retouche, elle est infinie. Après, Dix Lessic ou les poèmes comme ça, Dix Lessic, je ne l'ai jamais retouché depuis 2007. Il n'a pas bougé. Mais sur beaucoup de textes qui viennent transformer un spectacle, ben on les retouche constamment.
Est-ce que tu te bases aussi sur les réactions du public ? Par exemple, quand tu commences à jouer un texte que tu as arrêté, entre guillemets, et que finalement tu te rends compte que ben, face à un public, ça marche plus ou moins bien, ou en tout cas pas comme tu t'y attendais.
Mais je pense que j'aurais le faire plus, non ? Pas vraiment.
Il y en a qui ne le font pas du tout. Hein.
Moi, je ne fais pas. À vrai dire.
Chris Esquer, par exemple, voilà. Il fait très peu de rodage et c'est aussi très absurde.
Le rodage, c'est plus pour moi, pour le jeu. On en parle avec Cécile de ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien. Mais on n'est pas... on essaie de voir la globalité du rythme, comment c'est plutôt dans un rythme global qu'on essaie de faire que ça marche, plutôt que dans enlever tel mot, remettre tel mot, parce qu'il y a tellement de mots chez moi que si je dois mettre ça en œuvre... Ça me prend des heures et des heures de travail à chaque fois pour... Et non. Par contre, dans le dernier spectacle, l'actrice française, qui est différent, les autres, j'avais des poèmes où je pouvais m'autoriser certaines choses, un peu comme de la licence poétique, où j'élucidais pas le point, où j'élucidais pas ce que j'étais en train de dire. Maintenant, comme je suis en train de faire de l'autobiographie, il faut que, narrativement, on comprenne tout. Ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, à quel moment, tu vois, tous les repères. Et là, je dois être plus précise en termes de montage global. Mais donc du coup ça s'écrit tout le temps, il faut tout le temps les retoucher jusqu'à ce que on soit sûr de ce qu'on dit, vraiment que tout soit compris.
Et même Blanche Gardin, elle ne fait que retoucher ses textes.
Ah oui. Même Blanche Gardin.
Bonjour Laureline.
Bonjour.
On s'est déjà rencontrés via Victor Zarka.
Oui, je vois très bien, ça fait plaisir.
J'ai tendance à penser que le slam, c'est comme le journalisme, ça mène à tout à condition d'en sortir. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que t'as amené vraiment professionnellement, la pratique du slam, les contraintes, 3 minutes, etc. Est-ce que tu t'es dit d'emblée...
Tu veux bien te présenter pour tout le monde, parce qu'il est slameur aussi. Tu veux, juste que tu, comme ça, tu vois ton nom, tu veux bien ?
Mon nom ?
Oui.
Moi, c'est Michel.
Michel, voilà. C'est ton nom de scène, c'est ça, c'est
super nom de slameur.
Voilà, mais c'est juste que
Audrey Anosan.
On s'est rencontrés dans des scènes slam, donc du coup, voilà, si vous avez un jour, vous voyez Michel slammer, voilà, c'est Michel.
Bah oui, un jour, on m'a dit, bah, avec ton nom, on voit que t'es vieux.
Bah oui, tu sais. Dans les scènes slam, moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, quand on a commencé dans les scènes slam, Il y avait une chose qui était très, très, très particulière. C'était qu'on pouvait, au début, au moment où j'y étais, en 2006-2007, on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Je trouvais que c'était un formidable terrain d'expérimentation. Et moi, je n'ai pas de terrain, aujourd'hui, où je peux aller dire un texte que je viens d'écrire la veille. Je ne sais pas où le faire. Au théâtre, on fige les choses un peu. Tu vois, j'ai réussi à comprendre qu'on ne les figeait pas totalement, qu'on pouvait changer. Mais moi, ce que j'aimais, c'était être toujours sur un nouveau texte. Je ne vais pas redire les mêmes, ça ne m'intéressait pas. C'était refaire un truc. J'avais un nouvel élan. Donc c'est vraiment l'élan du slam. J'avais, oh, tiens, j'ai envie d'écrire ça. Oh, je l'écris, oh, je vais le dire. Hop, c'était vraiment, c'était mon plus grand plaisir, la performance, tu vois, l'immédiateté, tout ça. Ensuite, j'ai appris à construire, à refaire, la difficulté de refaire, de m'installer, tout ça. Donc moi, ça m'apportait vraiment ça, le slam. C'était vraiment ça, et le côté qui a... Et voilà, et comme tu dis, à condition d'en sortir, je le dis pour tout le monde, ça a été un moment, un grand terrain où il y a eu beaucoup de gens qui sont devenus chanteurs, je sais pas, chanteurs, slammeurs, rappeurs, qui ont fait plein de choses différentes, qui ont fait beaucoup de socioculturel aussi. Il y a eu toute une fange qui a fait du socioculturel, et c'est vrai que c'est chouette aussi de... Le slam est un moment, c'est pas une forme en soi pour moi. C'est pas une forme, le slam, pour moi. C'est un tournoi. Donc c'est chouette d'y passer, c'est chouette de repartir et de revenir. Mais en soi, c'est pas une forme, parce que sinon, c'est juste une poésie rythmée. Voilà. Ça te va comme réponse ?
Tout à fait.
Est-ce que, du coup, puisque tu parles de cette envie d'écrire un texte et d'avoir envie d'aller le déclamer tout de suite sur scène, et que tu n'avais pas l'opportunité, et que donc les cafés slam répondaient à cette à ce besoin-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de scènes ouvertes, même des open mic en humour, en stand-up, mais pas que, hein, y a des gens qui passent qui sont sur des formats vraiment différents. Est-ce que c'est un exercice que tu pratiques, quand tu écris quelque chose, non, d'aller le tester en scène ouverte?
Non, pas du tout. Mais par contre, tu vois, du coup, pour le coup, toutes les interventions que j'ai faites, que ce soit, j'ai présenté un festival d'humour qui s'appelle Performance d'acteurs à Cannes, tu vois, au Palais des Festivals, ça, j'ai présenté tous les spectacles du festival, il y en avait je sais pas combien. Bah, tous les textes que j'ai écrits ont redonné quelque chose après. Tout ce que j'ai fait dans les chroniques que j'ai pu faire de temps en temps pour des événements, des radios, ça a donné un texte. Donc chaque fois, c'est une occasion de tester. Mais autre chose, tu vois, les trucs sur la data, c'est la data en soi, ça m'intéresse, mais bon, ça a ses limites et ça m'a permis écrire un autre texte. D'accord. Donc je les teste ailleurs maintenant.
Une autre question peut-être ? Oui, là-bas.
Ah, ça te fait courir ça, Caroline. Ouais,
c'est mince.
Bonsoir. Bonsoir. Juste une question toute simple. Est-ce que vous considérez Boris Vian comme un slameur littéraire ?
Oui. Et merci. Je considère que la plus belle tirade de slam, c'est celle de Cyrano de Bergerac. La plus belle, le plus beau clash en public, c'est Cyrano de Bergerac. Voilà, il y a pas de le slam en soi, pour moi, ça ne veut rien dire sorti du contexte du tournoi. C'est une façon de se poser là avec un poème qu'on a écrit soi devant un pub, devant des gens et d'être avec la réaction des gens. Et oui, Boris Vian, bien sûr, puisqu'il travaille sur la rythmique des mots, donc c'est un chouette représentant de ça. Voilà. J'entends pas. Oui, oui.
Excusez-moi, ouais, ouais. En fait, c'est enregistré.
Ah oui, je vais juste redire, c'est enregistré.
Micro, sinon, on ne va pas vous entendre.
C'est enregistré, vous allez passer à la télé.
Oui, je disais qu'il n'y a pas que les tournois, il y a aussi les scènes ouvertes, oui, qui permettent aux gens
vrai.
De s'exprimer.
Mais c'est
vrai
que moi, à un moment, après,
j'ai...
Les gens
qui ne supportent pas le tournoi parce qu'ils ne veulent pas être notés, parce qu'ils n'aiment pas la compétition, mais ils peuvent quand même dire leur texte dans le cadre des scènes ouvertes.
Ben, peut-être que j'aime bien la compétition, alors. Parce que ça crée une émulation. J'aime bien le danger de ça aussi. Tu vois, le danger de la compétition.
Chez nos amis lycéens, on n'a pas de questions.
Est-ce que vous avez des questions ?
Est-ce que déjà l'exercice vous a plu, l'écriture minute ? Ok,
vous pouvez les garder pour vous, hein.
Bon, eh bien, alors il me... Alors, est-ce que on lit un
là,
dernier texte ?
Là, il y a une main, c'est une toute petite main.
Ah, une toute petite main. Elle est où, cette petite main ?
Toi, avec les lunettes, non ? T'as fait comme ça ? Non ? Tu t'es gratté, d'accord.
Le pauvre, là, maintenant, il est en train de... Bon, mais alors, il me reste à vous remercier très, 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 très chaleureusement. Donc, Laureline Kunz.
Merci.
Et Rosanna.
Merci.
Et donc Rosanna Di Vincenzo, merci. Voilà. Merci à toutes les deux pour cette formidable soirée. Donc la soirée a été enregistrée grâce à nos techniciens, que je remercie. Vous allez, donc vous allez retrouver la captation sur le site de la BPI avec les autres rencontres du pouvoir des mots. Et maintenant, je vous donne rendez-vous en octobre pour ma thèse en 5 minutes, rien à voir. Et en novembre pour une rencontre avec des conteurs et des scénaristes pour voir comment on peut raconter des images par les mots et aussi comment on peut voilà, raconter des histoires en images. Merci à tous, bonne soirée.
Merci à Caroline Reynaud.